puisque c'est une technologie qui jusqu'à présent est extrêmement coûteuse et justement peut-être plutôt réservée au cinéma. Et l'aspect vraiment innovant de notre projet, et bon, c'est pour ça qu'on a des subventions publiques françaises et européennes pour le développer, c'est que ça va justement permettre de rendre la techno plus accessible pour des producteurs de contenu virtuel. De contenu immersif au sens large.
Tous les types ou du coup plutôt des gens qui vont se destiner à des grosses productions de comme on peut vivre ici ou des objets tu vois, qui vont peut-être être plus ponctuels dans une expérience de réalité augmentée.
Ça
Je sais
peut
pas si
être
je
pour
m'exprime bien, mais.
des productions moins importantes, entre guillemets. C'est vrai qu'en France, la production, quand il s'agit de projets narratifs ou culturels, il y a la plupart du temps un financement du Centre national de cinéma
Okay.
ou Centre national cinématographique, enfin du CNC. Nous, on s'adresse à des créateurs ou producteurs indépendants qui ne passent pas forcément par ce modèle-là et qui ont simplement besoin de produire des contenus. On s'adresse aussi à ceux qui vont produire des contenus pour la formation professionnelle. Donc là, on s'éloigne un petit peu de type d'expérience qu'on a aujourd'hui, qui va plutôt être vocation culturelle, le divertissement. Et donc pour la formation professionnelle, il n'y a pas ces voies de financement public qui sont disponibles pour le type de création qu'on a ici. Donc ça va être des fonds privés ou simplement des commandes de clients.
Ok.
Je ne sais pas si je réponds
Si,
exactement à
c'est
la
un peu ça.
question, mais globalement, la techno va voilà, permettre de multiplier l'utilisation ou l'intégration de la capture 3D de l'humain en mouvement. Et je le précise quand même parce qu'on se dit bon bah multiplier les cas d'usage finalement. Alors t'as pas posé la question mais je voulais parler de l'aspect un peu environnemental et écologique de tout ça. Une partie innovante aussi c'est que la solution en fait compresse le poids des données parce que notre objectif c'est pas forcément de produire plus à tout prix mais de pouvoir produire ces contenus de façon plus légère en fait en compressant les datas, en réduisant les données et puis bah, l'espace de stockage sur les
Ok.
serveurs aussi. Donc ça je considère que c'est important. Alors je parlerai pas forcément de révolution parce qu'on est quand même dans quelque chose de niche mais c'est un de nos objectifs.
Ok. Merci beaucoup. Alexandre, je ne sais pas s'il y a un point sur lequel tu veux revenir, mais moi je t'aurais bien questionné sur un aspect que tu as abordé entre l'écosystème français, voire européen, et le reste du monde, pour pas dire les Américains, voire je sais pas, je connais pas vraiment l'écosystème, mais peut-être chinois également. Je me dis que dans la salle, il y a peut-être. Moi, c'est mon quotidien de travailler sur ces écosystèmes, mais les gens sont peut-être pas au fait de ce que ça représente d'avoir des technologies dites souveraines ou pas, ou sur des questions de protection de données, etc. On n'avait pas forcément parlé de ça en préparation, mais vu que tu en as parlé, maintenant tu es aussi libre de revenir sur un des points qui a été dit, mais je pense que c'est peut-être un point intéressant aussi pour les gens de comprendre ce qui se joue derrière ces technos et derrière des types d'expériences du point de vue des données, du point de vue de plein de choses, même s'il y a des réglementations européennes, mais je vais pas faire la réponse à ta place.
Très, très clair. Je pense que, en fait, je vais pouvoir rebondir sur ce qui a été dit et en même temps répondre à ta question. En tout cas, je vais essayer. On a parlé de plein de cas d'usage, en fait. On a parlé de la formation professionnelle, du culturel, du divertissement. Et moi, aujourd'hui, un des secteurs où la protection des données est le plus importante, c'est le domaine éducatif. L'éducation nationale, ceux qui ont pu vivre l'expérience de l'horizon de Khéops, on se dit bah découvrir les pyramides d'Égypte, découvrir ce qui se passait au Moyen Âge, comprendre comment fonctionnent les polygones et les mathématiques, bah cette technologie elle a du sens. Et pour pouvoir utiliser cette technologie-là de manière massive, en France, on parle quand même de 8 millions d'élèves étudiants, avec des données qui se doivent d'être protégées, bah, on a besoin d'avoir cette couche de protection. Et comme aujourd'hui, l'écosystème, tous les casques, les téléphones, toute cette technologie qu'on a autour de nous, malheureusement, c'est pas des Français qui les produisent, pas des Européens, et pas que ça soit problématique, que ce soit les autres qui les développent. Mais ce qui est problématique, c'est la vision économique qu'ils en ont. C'est que pour pouvoir rendre ces technologies-là moins chères que si on les produisait en France ou en Europe, ça veut dire qu'ils prennent les informations qui sont des informations personnelles, et ça, c'est problématique quand on s'appelle l'éducation nationale en France. Et donc ça fait partie des raisons pour lesquelles nous on a développé cette plateforme qui permet de protéger les données et de remplacer l'operating system, le Windows des constructeurs de casques. Et un deuxième secteur que tu as abordé, Anaïs, sur le sujet, qui est le secteur de la formation professionnelle, qui est un secteur qui pousse et qui tire, qui a vraiment beaucoup de traction sur les technologies immersives. Pareil, se dire, si je devais me former pour utiliser une grue, si à chaque fois que je dois former quelqu'un pour utiliser une grue, je suis obligé de déplacer une grue, ou si je veux faire un chantier à plusieurs, hein, parce qu'on parlait de métaverse, avec tous les corps de métier qui doivent construire un bâtiment, bah, c'est très compliqué de réunir tout ce monde autour d'une table. Il y a des questions d'assurance, de risque, etc. Et la formation professionnelle, bah, elle s'est emparée énormément de ce secteur d'activité, parce qu'elle permet de former plus vite, de former moins cher, de former mieux, et de se passer de tout ça. Sauf que, bah, pareil, protection des données. Je suis un grand industriel français qui construit des fusées. J'ai pas forcément envie que Meta récupère mes données en temps réel de ce qui est en train de se passer pendant que je suis en train de produire ma fusée. Et ben, la question de la protection des données revient fort sur ces sujets-là, et c'est pour ça que, en tout cas, je pense, et que je défends cette vision-là et que j'ai créé cette société, c'est de se dire que je pense qu'il y a un besoin et qu'on vient répondre à cette problématique de protection des données.
Merci beaucoup. Peut-être avant de continuer, du coup, on est au moment du premier entracte. Est-ce qu'il y a déjà des questions de compréhension de... C'est toujours le moment difficile. Du coup, ce premier entracte sert juste à vous préparer aux questions qui vont arriver dans une demi-heure. Comme ça, vous avez le temps de réfléchir s'il n'y en a pas maintenant. Non ? Toujours pas ? Bon. Eh ben, on va continuer alors. On peut continuer sur plusieurs aspects. Moi, j'étais intéressé peut-être qu'on aille du côté, on parlait cas d'usage, côté expérience utilisateur, et puis je vais peut-être revenir parce que ce qu'on se dit, ça me fait réfléchir à pas mal de choses sur d'autres aspects. Et puis n'hésitez pas vous à aussi dire, attendez, il y a un point important qu'on n'aborde pas, c'est celui-ci. Antoine, sur ce type d'expérience que vous avez, moi je suis très curieux de la valeur ajoutée du collectif. Est-ce que vous le mesurez ? Est-ce que là, alors j'ai pas fait cette expérience-là, mais j'ai fait Notre-Dame, on était 4x4, c'est peut-être le même format. Est-ce que c'est une vraie valeur ajoutée ? Est-ce que du coup cette expérience, elle s'insère dans une temporalité qui n'est pas que l'expérience, mais qui est le fait que vous en parliez tout à l'heure, les gens arrivent en se faisant une représentation d'une expérience qui va pas vraiment être celle qui est ce qu'elle est, parce qu'ils vont mettre un casque qu'ils n'avaient pas forcément prévu. Mais il y a peut-être le après aussi, le fait d'en parler, le fait d'être sur les réseaux, le fait de je sais pas quoi, comment vous le valorisez. Comment vous appréhendez, en fait, je dirais, votre expérience de réalité virtuelle dans une temporalité peut-être plus longue? Donc il y a deux questions en une. Il y a d'abord ça, et puis après vraiment l'expérience collective de et puis le fait d'être, je sais pas combien, maximum. On est combien maximum dans cette salle?
On essaye de limiter à 90.
90, ok.
Alors, l'expérience collective, d'un point de vue du visiteur, vous avez remarqué, en fait, quand vous êtes dans votre immersion, en tout cas sur l'expérience qu'on propose ici, on n'a pas trop envie d'en sortir. Et c'est vrai que même si naturellement on est amené à communiquer avec le groupe avec lequel on est, ça arrive, on le fait pas autant que si on était en train de faire une vraie visite dans le milieu des pyramides d'Égypte, vraiment au Caire. Néanmoins, c'est rassurant d'avoir ses collègues, ses amis, sa famille autour de soi. On a l'impression que l'expérience, du coup, même si elle est virtuelle, elle se fait à plusieurs. On a vraiment l'impression d'être à côté des personnes. Je peux être avec ma compagne, faire l'expérience Horizon Kéops et lui tenir la main. Il y a un truc très sympa et très humain. Vous passez quand même 45 minutes face à un guide qui est virtuel, qui vous raconte plein de choses intéressantes, mais c'est une machine. Donc il y a un côté très sympa qui ramène un peu à l'humain, je trouve. Maintenant, vous l'avez mentionné, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe après justement les 45 minutes d'immersion, c'est quand en fait nos visiteurs se retrouvent très souvent dans notre salle de débrief qui est au fond. Et en fait, tout le monde a besoin de débriefer. Et donc, même si l'expérience pendant 45 minutes, elle peut paraître un petit peu solitaire, même si on est en groupe, il y a un moment très fort qui se passe derrière. On le constate. Moi, il y a une image que je donne assez fréquemment. Je viens souvent au centre. Le week-end, on a un type de public type qui est très présent. Ce sont les familles, en général de 4. Et on les voit souvent rentrer, deux parents qui marchent côte à côte et les enfants, souvent des pré-ados ou ados qui sont juste derrière. Papa et maman qui sont devant le plus souvent, et les enfants derrière qui sont sur leur téléphone. C'est systématique.